Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église, où nous allons aujourd'hui nous intéresser à un personnage biblique à travers le livre qui lui est consacré dans l'Ancien Testament. Une conférence lui est dédiée jeudi 16 avril au couvent des Dominicains de Toulouse, dans le cadre du cycle « Lire la Bible ». Le livre de Tobie inaugure ce cycle et nous allons partir à sa découverte tout au long de cette émission avec mon invité. Et mon invité est celui-là même qui prononce cette conférence dédiée au livre de Tobie, le frère François Le Hégaret, membre de la communauté des Dominicains de Toulouse, père maître des étudiants en théologie et enseignant au Studium de théologie. Bienvenue à vous aussi, frère François, et merci d'avoir accepté mon invitation à nous parler de cette grande figure de l'Ancien Testament.
Bonjour et merci donc à vous pour votre invitation.
J'ai dit que votre conférence que vous donnez jeudi 16 avril à 20h30 à la salle du chapitre du couvent des Dominicains à Rangueil inaugurait le cycle « Lire la Bible ». Il y en a trois en tout, des conférences consacrées à Tobie donc, puis à Esther le 7 mai et à Judith le 21 mai. Elles sont sous-titrées « Trois figures de confiance en Dieu en temps d'épreuve ». Pourquoi avoir choisi précisément ces trois personnages et en quoi sont-ils des figures de confiance en Dieu en temps d'épreuve ?
Alors ces trois personnages, c'est plus exactement trois livres consacrés à trois personnages et qui sont regroupés dans la Bible. Et selon les Bibles, ils ne sont pas à la même place. Par exemple, dans la Bible de Jérusalem, dans nos Bibles qui suivent en fait la Bible latine de la Vulgate, sont à la fin des livres historiques. Dans la Tobe, par exemple, et dans d'autres traductions, ils sont à la fin des livres sapientiaux. Et si vous regardez la Bible hébraïque comme les Bibles protestantes, vous ne les trouverez pas, ou en tout cas pas exactement comme on l'a dans la Bible de Jérusalem. Et le livre de Tobie est un livre dont on ne trouve, lui, c'est sûr, pas ni dans les Bibles hébraïques, ni dans les Bibles protestantes. Ces trois livres sont appelés deutérocanoniques. Alors, en réalité, pour nous, ils sont canoniques. Deutéro veut dire deuxième, donc c'est comme le deuxième canon. Donc ce sont des livres qui ont été écrits tardivement, avant le Christ, bien entendu, nous sommes dans l'Ancien Testament, et dont les manuscrits sont assez compliqués, il y a des manuscrits différents, des versions différentes. Et donc ce sont trois figures qui ont été écrites durant ces moments, en fait, qui précèdent la vie du Christ, donc entre les moments de la conquête d'Alexandre le Grand et l'arrivée des Romains en Palestine, et qui vont marquer un changement dans le judaïsme et un changement aussi dans la perception du rapport avec Dieu. C'est pour ça que ce sont des figures aussi de confiance en Dieu. C'est face à difficultés de l'époque, comment prier Dieu, comment Dieu agit sur le monde.
Parlons maintenant de Tobie, celui qui est au centre de votre conférence du 16 avril. Où et à quelle époque a-t-il vécu et à quand remonte l'écriture du livre de Tobie, en tout cas pour ce que l'on en sait aujourd'hui ?
Alors, en fait, c'est une question assez compliquée. Parce que ces trois livres ont en commun un genre littéraire particulier et ça se manifeste particulièrement dans le livre de Tobie. Donc, quand est-ce qu'a vécu Tobie ? Alors, d'abord, Tobie, c'est celui qu'on écrit avec un T. C'est le père du jeune Tobie. On reviendra tout à l'heure la différence entre les deux. Il dit être né au moment où le royaume d'Israël était unifié. Donc, après qu'il a été fondé par David, et son fils, ensuite, c'est Salomon, qui va donc gouverner le royaume d'Israël dans sa totalité. Et à la mort de Salomon, le fait que il a fallu construire le temple, il a fallu faire plein de choses, les impôts sont trop grands, et donc 10 tribus décident de partir. Nous sommes en 931 avant Jésus-Christ. Et donc, ça vous avez en livre de Tobie, chapitre 1, verset 4, il dit « Dans ma jeunesse, quand j'étais encore dans mon pays, la terre d'Israël, toute la tribu de Nephtali, mon ancêtre, se détacha de la maison de David et de Jérusalem. » Donc, il est né avant 931, avant Jésus-Christ. Et il va rapporter à la fin du livre ce qui va arriver pour son fils, et que son fils Tobie ne va mourir qu'après la ruine de Ninive. Et là, nous sommes en 612 avant Jésus-Christ. Donc, Tobie, père, a quasiment vécu 3 siècles, ce qui est un peu beaucoup, vous en conviendrez.
Ce serait étonnant.
D'où ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce Tobie est en réalité une figure de l'Israélite depuis Salomon jusqu'à, en réalité, l'exil à Babylone.
Alors, on arrive à l'écriture, peut-être, du livre.
Alors, l'écriture...
Elle daterait de quand, elle ?
Elle, l'écriture, est beaucoup plus récente, c'est-à-dire à peu près entre 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pendant la période grecque d'Israël, hein, donc à la mort d'Alexandre, les Grecs vont se partager l'immense empire d'Alexandre, et donc la période des Ptolémées, et c'est là qu'on va écrire, parce qu'il y a quelque chose de particulier à cette époque, les Juifs ne vivent plus simplement en Israël, ils sont en diaspora, ils vivent dans plusieurs villes, et comment vivre sa foi dans ces lieux en diaspora. Et alors justement, le livre de Tobie se passe à Ninive. Ninive, c'est l'actuel Mossoul, le nord de l'Irak. Et Ninive, c'est un lieu de diaspora. Alors, d'ailleurs, une particularité, c'est un des rares livres qui mentionne justement ces Juifs du premier exil, celui du royaume du Nord, hein, donc de 721 avant Jésus-Christ. Normalement, on parle souvent de l'exil à Babylone, mais là, c'est plus tard. Et donc, c'est comment vivre sa foi en Dieu alors qu'on ne vit pas sur la vie de terre d'Israël.
Tobie, avec un E, parce que là, on parle du livre de Tobie, oui. IE. Qui est-il et que nous raconte de sa vie le livre qui lui est consacré ?
Alors, Tobie, c'est le fils de Tobie.
Tobie, avec T.
Voilà, avec T. Donc, en fait, les deux noms viennent du grec. Tobie avec un T, le père, c'est Tobiet, donc Tobiit en grec, et l'autre, il est Tobéias. Et donc Tobéias, c'est le fils, et c'est celui qui a donné en latin le titre du livre. En réalité, c'est Jérôme qui a traduit les deux par la même, quasi le même terme. D'où la difficulté quelquefois en français pour savoir, mais de qui parle-t-on, du père ou du fils ?
Et donc, c'est pour ça que quand on a l'oral, il faut bien préciser qu'il y a Tobie avec un T, c'est voilà. Le père, et Tobie avec un E, c'est le fils.
Voilà. Mais certains, justement, vont parler pour le fils plutôt de Tobias,
pour faire la distinction. Parce qu'il évite les confusions, évidemment. Alors, sachant que le texte, je crois, à l'origine, était écrit en grec, l'original a été perdu, semble-t-il, et puis on a retrouvé un fragment en araméen et une version grecque dans les manuscrits de la Mer Morte dans les années 50.
Donc, comme j'ai dit, le livre n'est pas dans la Bible hébraïque. Ça, quand c'est pas dans la Bible hébraïque, il faut se dire, oulala, c'est peut-être pas écrit en hébreu au point de départ. En fait, il aurait sûrement, c'est un livre un peu compliqué, qui provient d'une histoire un peu légendaire au point de départ, un peu un texte matrice, qui aurait été écrit dans la région mésopotamienne, donc probablement vers Ninive, et qui a été ensuite retravaillé par la communauté juive, pour donner un peu le livre qu'on a actuellement. Donc à Qumran, on a retrouvé un morceau et un fragment hébraïque, en fait, du livre, et plusieurs fragments araméens, qui est la langue de Ninive, et ensuite des manuscrits grecs en des versions différentes.
Alors on revient à Tobie, donc, ce que nous raconte donc de sa vie, le livre qui lui est consacré, ce fameux livre de Tobie.
Alors, ce livre raconte d'abord l'histoire du père, et donc l'histoire du fils. Le père, c'est un juste, quelqu'un qui suit la loi juive et qui veut la suivre jusqu'au bout. Il lui arrive plein d'épreuves, et au bout d'un moment, l'épreuve finale pour lui, c'est qu'il devient aveugle, il se met sous un arbre et un oiseau se déleste un peu au-dessus, il tombe dans les yeux, il devient aveugle. Et donc, tout d'un coup, il est un peu désemparé, parce que face à toutes ces épreuves, pourquoi Dieu le laisse dans cette situation si triste ? Et donc il envoie son fils pour aller rechercher une somme qu'il avait prêtée auparavant à un parent éloigné. Et donc il envoie son fils, donc ils habitent Ninive, et il envoie le fils à Rages, qui est quasiment Téhéran. Et sur le chemin, cherchant quelqu'un pour accompagner son fils va tout d'un coup tomber sur un homme qui se dit un bon explorateur et qui s'avère être l'ange Raphaël. Et donc, ils vont partir, le fils et Raphaël, en direction de Rages pour récupérer l'argent. Mais sur le chemin, l'ange Raphaël va détourner Tobie de cette recherche d'argent pour le conduire à un autre village qui est Ecbatan pour aller en fait se marier avec Sarah. Sarah, c'est une autre juive qui a été mariée déjà 7 fois et à chaque fois avant la nuit de noces, au moment en réalité de la nuit de noces, son mari va mourir parce que un démon, Asmodée, a tué à chaque fois les maris. Mais justement, l'ange lui dit, bien, si justement cette fille, tous ses maris sont morts, c'est parce que, en fait, c'est toi qui étais destiné à l'épouser. Et donc, Tobie, fils, donc, va épouser Sarah et ils vont retourner ensemble, hein, donc à Ninive, là où est le père, et l'ange, par moyen, va faire guérir le père, Tobie, de sa cécité. Et tout ça conduit justement à voir cette œuvre de Dieu dans les épreuves.
Alors vous parlez de cet aspect très important du livre de Tobie, c'est qu'il affirme l'existence de Raphaël, qui, rappelons-le, est le troisième archange reconnu par l'Église avec Michel et Gabriel. Et c'est, à ma connaissance, le seul livre de l'Ancien Testament qui parle de Raphaël. Il n'y en a pas d'autre.
Non, mais il n'y en a pas d'autre. En fait, on parle peu des anges de Dieu, des noms des anges. Hein, en fait, on sait que des anges sont des myriades et que parmi les anges, il y en a 3 grands, hein, les archanges, qui sont connus, hein, donc Gabriel, Raphaël et Michel. Donc qui ont des missions particulièrement importantes.
Ce sont des anges d'un ordre supérieur. Hein.
Alors, ce sont des anges d'un ordre supérieur. Le mot Raphaël veut signifier, donc c'est Dieu guéri. Elle, c'est la marque de Dieu, hein, pour ça qu'on les a dans les 3 archanges. Ce « elle », c'est Dieu guéri. Et donc, Raphaël, c'est celui qui va guérir à la fois Tobie et à la fois Sarah.
De fait, même s'il s'agit d'un récit dont la datation exacte n'est pas tout à fait prouvée, est-ce qu'on peut supposer que les Hébreux de l'époque de la rédaction du livre de Tobie croyaient à l'existence de Raphaël ?
Alors, c'est un débat déjà qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Hein, c'est entre les Sadducéens et les pharisiens, et les Sadducéens reprochent aux pharisiens de croire à des anges. Quand Paul il a été arrêté, il est chrétien, et tout d'un coup, les pharisiens diront justement aux Sadducéens qui l'accusent, mais taisez-vous, peut-être qu'un ange lui a parlé. En fait, les pharisiens datent justement, la fondation des pharisiens date de la période grecque. Donc c'est l'importance de la loi, l'importance du sabbat. En fait, pour eux, les anges existent bien. Donc, dans la tradition juive, que les anges existent, ça ne pose pas de problème. Et on voit, hein, donc, ensuite, il va y avoir, pour la Vierge Marie, donc 200 à 300 ans après, c'est l'ange
Gabriel
qui viendra la voir. Que les anges existent, ça, d'abord, ça a toujours existé dans l'Écriture, mais qu'on les nomme particulièrement, ben voilà, ça date de cette période-là.
Il y a autre chose dans le livre de Tobie, et je crois que c'est également le seul de la Bible, où la terre promise est appelée terre d'Abraham. Je crois qu'on ne lit cette expression nulle part ailleurs. En quoi ce détail est important également ?
Il y a 2 raisons pour lesquelles on parle de terre d'Abraham. La première, c'est que nous ne sommes pas en terre d'Abraham. Nous sommes à Ninive. Et donc, comment prier Dieu alors que nous ne sommes pas sur la terre qui a été promise au peuple d'Israël par Dieu ? Et cette promesse a été faite à Abraham. D'où c'est la terre d'Abraham. La deuxième raison, c'est comment continuer ce peuple d'Abraham et cette promesse que Dieu a faite à Abraham de faire d'Israël un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que le sable au rivage des mers. Eh bien, le livre de Tobie va répondre par l'importance de la famille. D'où le thème du mariage qui est très présent dans le livre de Tobie. Pour les Juifs de la dispersion. Quand on est sur une terre étrangère, qu'est-ce qui est important ? Bien, ça va être comment constituer des familles, avec qui il faut se marier pour que la foi puisse continuer à vivre. Nous, on ne va pas se marier avec les païens, avec ceux qui ne croient en rien et où tout d'un coup la foi perdrait sa force. Bien, il faut chercher des personnes qui vivent leur foi. D'où l'importance de cette expression de terre d'Abraham pour continuer la promesse que Dieu a faite à Abraham.
Alors, on va résumer le livre avant d'entrer dans le détail de votre conférence, la façon dont vous allez aborder le livre de Tobie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quatre grandes parties, et vous pouvez peut-être rappeler lesquelles.
Alors, les quatre grandes parties sont composées à chaque fois de trois chapitres. La première partie regarde les épreuves de Tobie, père, et qui se termine par l'épreuve de Sarah, donc cette fille promise en mariage à Tobie, fils. Et donc, c'est là où on voit toute cette histoire d'Israël qui commence après la mort de Salomon jusqu'à la destruction de Ninive, donc qui parcourt quasiment trois siècles, et comment, par Tobie, Israël a vécu ces épreuves-là. Deuxième partie, c'est le voyage entre Ninive et Ecbatane, en réalité, et c'est les épreuves qui passent à Tobie, fils. On parlera de l'épreuve du poisson. Et c'est le moment où l'ange va accompagner Tobie pour l'amener à un mariage. Ensuite, les trois chapitres suivants, c'est le mariage. Donc, c'est d'abord la demande en mariage par Tobie. Ensuite, c'est la célébration du mariage. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après le mariage, alors que tout se passe à Ecbatane, avant que Tobie, fils, retourne auprès de son père. Et quatrième partie, c'est le retour. Cette fois-ci, avec donc Raphaël et Tobie, et Sarah, ensuite comme épouse de Tobie, qui arrive auprès de son père. Donc, c'est la guérison. Ensuite, c'est la révélation de Azarias comme
Raphaël.
Dans l'ange Raphaël. Et enfin, c'est la conclusion, l'action de grâce que Tobie, père, adresse à Dieu. Et voilà la conclusion de l'histoire.
Alors, après cette présentation du livre de Tobie, de ses quatre parties, de ce qu'elles nous apprennent de la vie de ce personnage biblique, je propose que nous fassions la pause habituelle dans cette émission. Nous évoquerons ensuite le contenu de votre conférence, les thèmes et les questions que vous y abordez et que vous y développez. Nous écoutons en attendant le début du Stabat Mater de Vivaldi dans une version de l'ensemble baroque de Toulouse dirigé par Michel Brun. Thank you.
Présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Seconde partie de Vivante Église avec mon invité, le frère François Le Hégaré, membre de la communauté des Dominicains de Toulouse, père maître des étudiants en théologie et enseignant au studium de théologie. Le frère François donne une conférence jeudi 16 avril à 20h30 à la salle du chapitre du couvent des Dominicains à Rangueil, conférence dédiée au livre de Tobie. Il nous a présenté en première partie de ce numéro ce personnage biblique et ce que nous apprend de sa vie, le livre qui lui est consacré dans l'Ancien Testament. On en vient à votre conférence du 16 avril. Sur quoi allez-vous l'orienter? Quels sont les thèmes que vous allez y aborder et y développer en lien avec le livre de Tobie?
Alors, je suivrai dans la conférence, en fait, le livre lui-même. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des quatre parties. Les quatre parties ont une importance particulière à chaque fois et qui développent ce thème de comment Dieu agit aujourd'hui. Et donc, c'est la première partie et cette partie sur les épreuves. L'épreuve donc de Tobie père et qui termine par, beaucoup plus rapidement, sur l'épreuve de Sarah. L'épreuve de Tobie père, donc, ce sont les grandes épreuves qu'a connues le peuple entre donc, le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, donc d'Israël en 931, et quasiment la chute de Ninive en 700. Donc, première épreuve, c'est l'abandon de Dieu par le royaume du Nord. C'est la construction des veaux par le roi Jéroboam pour que le peuple du royaume du Nord ne retourne pas à Jérusalem. Et Tobie se met son honneur à retourner et à aller prier à Jérusalem. Donc on voit lui essaye de rester fidèle à la loi juive dans sa plus parfaite expression, telle qu'elle est comprise au 3e siècle avant Jésus-Christ, et pas, ça c'est un détail. Et donc, eh bien, Dieu répond à cette fidélité de Tobie, et donc il continue à vivre. Deuxième épreuve, c'est la chute du royaume du Nord, la chute de Samarie en 721, et la déportation à Ninive. Et donc Tobie, père et sa famille, en fait, sont déportés à Ninive. Et là, deuxième et grande épreuve pour le peuple d'Israël, que faire pour la cache-route, pour la nourriture, hein, pour les Juifs, hein, le respect des règles alimentaires est très important. Or là, en pays païen, que faisons-nous? Et donc, la plupart des Juifs abandonnent les règles alimentaires juives, hein, les menus cachers. Et alors lui, hein, dit Tobie père, hein, je me gardais de manger les mets des païens. Il veut garder cette règle sur l'alimentation. Ensuite, troisième épreuve, bien, c'est parce que le roi, hein, qui a pris donc, la Samarie, hein, veut attaquer aussi Jérusalem et il est débouté, il perd le combat, il est obligé de fuir donc, le siège de Jérusalem et il va se retourner contre les Juifs qui ont été déportés à Ninive. Et en particulier, donc, il décide de tuer faire tuer des Juifs dans la rue, etc., avec interdiction, bien entendu, de toucher les corps. Et le Tobie va vouloir ensevelir les corps. Et il est dénoncé. Étant dénoncé, il doit se cacher, tous ses biens sont saisis, tout est confisqué, et en fait, le roi ensuite va être assassiné, et ce qui permettra ensuite à Tobie de revenir. Et donc, il va vivre une vie pauvre, mais de fidélité à la loi. Et quatrième épreuve, eh bien voilà, alors que la situation a l'air de s'améliorer, donc il travaille, hein, il est pauvre, il est fatigué, il s'endort sous un arbre, et là, donc, un oiseau, hein, parce que ben, il s'allège de
non, en fait,
sur les yeux.
Une fiente d'oiseau qui
voilà,
lui tombe,
fiente
dans
d'oiseau,
yeux,
hein. Tombe dans les
on
yeux.
On ne sait pas l'oiseau, c'est un moineau, une hirondelle, voilà. Il y a plusieurs versions, mais toujours est-il que la conséquence,
il devient aveugle. Et donc là, il se trouve désemparé. Pourquoi lui qui a été si fidèle à la loi se trouve aveugle alors que c'est le jour même de la Pentecôte, donc le jour même du don de la loi. Et donc lui qui essayait d'aider les autres, qui a voulu enterrer les morts, eh bien se retrouve avec rien et c'est sa femme qui va devoir travailler et vivre de la générosité des autres. Et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est que les personnes avec, chez qui sa femme travaille lui donnent un chevreau, qu'elle ramène à la maison, et lui, entendant le bruit du chevreau, dit « Mais c'est peut-être le fruit d'un vol, peut-être la viande n'est pas cachère, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas la manger. » Et sa femme dit, elle en a marre, elle est fatiguée, dit « Mais voilà, regarde où t'as conduit ta pratique de la loi, on n'a plus rien. » Donc c'est l'épreuve de Tobie, et l'épreuve ensuite de Sarah, hein, qui est racontée, donc cette mort des sept maris. Sarah est la fille de Raguel, donc là aussi une famille qui essaye de vivre selon la loi juive dans sa totalité. Et cette fille, son père Raguel, essaye de la donner en mariage à un mari qui est là, et donc elle est à Ecbatane. Donc l'Ecbatane, c'est le sud, à peu près, un peu dans les hauteurs, dans les montagnes de l'Iran. Et il essaye de la marier à des gens de Ecbatane. Et à chaque fois, en réalité, les maris meurent avant que les noces soient consommées. Et tout d'un coup, sa servante dit à cette fille, « Regarde, c'est à cause de toi que tes maris sont morts, tu es une tueuse d'hommes. » Donc la fille monte dans sa chambre, pleure, et adresse là aussi une prière à Dieu en disant, « Mais pourquoi il m'arrive tant ces malheurs ? Pourquoi je suis accablé ?» Et donc, tous les deux ont l'impression que Dieu ne répond pas à leur prière. Et c'est là que Dieu va envoyer son archange, Raphaël, pour aller sauver et Tobie, père, et Sarah. Et donc on arrive à la deuxième partie du livre, qui est d'abord le choix de Raphaël comme compagnon de Tobie fils, pour aller chercher donc à Rages, à Téhéran, l'argent qui aurait été laissé à un parent. Et donc le père cherche un compagnon sûr, un voyageur sûr pour accompagner son fils, parce que c'est son unique, c'est le seul qui lui reste. Et alors qu'il est aveugle, alors qu'il n'a rien, il dit « si on prend mon fils et s'il arrive quelque chose à mon fils, eh bien il n'a plus qu'à mourir ». Et donc, l'ange va se porter garant, il se présente sous le nom de Azarias, ce garant du voyage et de la sécurité de son fils. Le fils, il ne parle pas beaucoup à l'époque, et la seule chose qui l'intéresse, c'est en réalité de partir de Ninive, de partir de sa famille, parce que en fait sa famille, il étouffe. Son père ne pense que à la loi, et lui, il se rend bien compte qu'il peut pas vivre dans cette atmosphère-là. Et donc, quand il entend son père vouloir le faire partir pour aller chercher de l'argent, donc à Rages, il en est tout content et il ne pense qu'à l'argent, parce qu'il en a marre de vivre dans la pauvreté, à l'argent qu'il va pouvoir gagner. Et donc Raphaël l'ange va se porter garant sur le voyage vers Rages. Et là, premier soir, il campe au long du Tibre et nous dit, c'est au début du chapitre 6, « L'enfant descendit au fleuve se laver les pieds quand un gros poisson sauta de l'eau et faillit lui avaler le pied. » Donc, alors que l'ange avait dit « Tout se passera bien, il n'y a aucun problème », là, tout d'un coup, dès le premier soir, il manque de se faire arracher le pied, voire de finir noyé dans le Tigre. Oui. Eh bien, on s'aperçoit que l'ange, en réalité, ne va pas du tout agir. Il va donner des instructions à Tobie fils. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir ? Attrape le poisson, fais ceci, fais cela. Donc, Tobie s'en sort et l'ange dit ensuite à Tobie, eh bien, ouvre le poisson, prends du fiel, parce que c'est un onguent. Fais ceci, fais cela, prends telle chose dans le poisson. Et Tobie fait. Ça montre que Dieu agit par sa parole. On cherche à savoir comment Dieu agit dans les épreuves. Là, le texte nous dit, il agit pas en faisant des choses. N'attendez pas des miracles extravagants qui arrivent. Vous avez la parole de Dieu. C'est ce que fait l'ange. Il dit la parole de Dieu à Tobie et Tobie l'applique. Et c'est là, en fait, c'est que cette première épreuve, qui est l'épreuve du poisson, montre que tout ce qui va, en fait, être pris dans le poisson, va servir au salut. L'épreuve sert au salut. Et c'est dans l'épreuve qu'on trouve la force pour le salut. Pour le salut de Sarah, une partie du poisson va former une sorte de dansant pour faire fuir le démon.
Une fumigation qui va faire fuir le démon Asmodée.
Voilà. Et une partie du poisson va servir à guérir les yeux de Tobie père. Et donc, à un moment donné, Toby, fils, qui n'a toujours pas beaucoup parlé, qui se manifeste comme un enfant, l'ange lui dit « Bon, il faut en fait aller voir Sarah, parce que se marier avec elle, parce que c'est elle qui t'est promise par Dieu. » Pour montrer que les épreuves de Sarah, en fait, ce n'était pas rien, Toby dit « Oh là là, j'en ai entendu parler à Ninive. Mais cette fille, ses 7 premiers maris sont déjà morts, et tu veux me faire épouser celle-ci ? » Et l'ange lui dit alors « Mais sois sans crainte, c'est parce que tu étais destiné à devenir son époux. » Et donc, ben, Toby va là de nouveau faire confiance dans la parole de l'ange, donc la parole de Dieu, et va donc décider d'aller à Ecbatane avec l'ange. Là, l'ange se rend compte que Toby, il a peur, etc. Il dira, bon, l'ange lui dit, je parlerai pour toi, c'est moi qui parlera à ton père. Et donc, on arrive à la troisième partie, c'est l'arrivée à Ecbatane et l'arrivée dans la famille de Raguel, avec la fille Sarah. Et là, on s'aperçoit, dès le premier soir, Toby dit à Raguel, donc le père de Sarah, je ne mangerai pas si tu ne promets pas de me donner Sarah comme épouse. Et donc, on s'aperçoit que tout d'un coup, c'est Toby fils qui prend l'initiative. Alors qu'au début, il était omnubilé que par l'argent qu'il avait pouvoir récupérer à Ragès, là, tout d'un coup, il se rend compte qu'il a une vocation supérieure, beaucoup plus grande, c'est de fonder une famille, d'être un époux fidèle à cette fille qu'il ne connaît pas encore, et donc de poursuivre en fait la vie et la génération juive, là où il est. Et c'est le texte, il y a une différence en fait entre un avant et après, au milieu du livre, c'est qu'avant, à chaque fois, on parle de l'enfant Toby, et à partir du chapitre 7, on parle de Toby comme fils de Tobit. Il devient un vrai fils d'Israël. Et donc, il a l'initiative. Alors, donc, le mariage va avoir, il y aura plusieurs étapes. Au début, donc Raguel n'était pas d'accord de donner sa fille Sarah à Toby, parce que Toby, c'est un bon juif et qu'il n'a pas envie qu'il meure. Et d'ailleurs, il n'aura pas du tout confiance. Pendant la nuit de noces, Raguel va sortir pour creuser la tombe de Toby pour l'enterrer avant le matin pour pas qu'on se moque de lui. En disant, ah ça y est, il en a tué, il y a un 8e mari qui vient de mourir. Et en réalité, le soir des noces, Toby et Sarah vont commencer d'abord par rendre grâce à Dieu et se mettre sous la protection de Dieu. Toby va d'abord faire ce que l'ange Raphaël avait dit pour chasser le démon, donc il met dans la cheminée.
Une fumigation, en fait.
Donc c'est parti du poisson. Et le démon Asmodée s'en va dans le désert, loin. Et là, ce démon va être lié par Raphaël. Remarquez d'ailleurs que dans le texte, c'est très court le passage du combat entre l'ange et le démon.
Et le démon.
Ce qui montre que ce n'est pas l'importance du texte. L'importance du texte, c'est ce mariage, alors là qui est lui, on l'a très développé, et donc cette la manière que on doit s'unir comme juif sous la protection de Dieu. Cette prière d'ailleurs est dans notre rituel catholique du mariage. C'est un des textes au choix parce que c'est une très belle prière pour ceux qui s'engagent dans le mariage pour cette nuit de noces. Alors après, bien entendu, Raguel très content. Et sa mère est très contente. Donc décide en fait de faire durer cette période de cette fête des noces et le moment où Toby et Sarah doivent partir. Donc ils cherchent à maintenir Toby et Sarah, un peu comme c'était dans l'Écriture avec Isaac quand il est allé se marier. Voilà. Et donc on arrive après à la dernière partie du livre, ce qui est le retour. Et le retour va se passer donc en deux périodes. La première, la guérison de Toby,
le père.
Et on voit surtout, à travers cette guérison, comment le père Toby va petit à petit revivre. Donc, tout d'abord, la première personne qui se met à la rencontre de fils Toby qui revient, c'est sa mère. Elle aperçoit d'abord, petit personnage aussi étrange dans le livre de Toby, le chien. Qui arrive, qui devance Toby et Raphaël et Sarah, Et apercevant le chien, elle sait que son fils revient. Elle est valide, elle voit, et elle court embrasser son fils. Le père, hein, lui, ne voit pas, il est resté à la maison. Ben voilà, il se plaint. En même temps, il dit, ben voilà, ben Dieu a dû bien les conduire. Et Toby arrive, lui met le fiel dans les yeux, enlève la petite pellicule au-dessus des yeux, et ça y est, Toby, père, peut voir son fils. Lui qui se plaignait constamment d'une sanction divine, non seulement a recouvert la vue, mais tout d'un coup, ça lui permet de changer son regard sur Dieu. Il s'aperçoit qu'il a certes été très fidèle à la loi, mais il a oublié la chose importante qui était la vie de Dieu, l'action de grâce pour Dieu. Et tout d'un coup, la joie remplit la maison. Et on le voit, hein, Toby, qui était moqué à Ninive, parce que bon, lui qui était juste, ben, regardez ce qui lui est arrivé. Tout d'un coup, comme il a recouvré la vue, il peut sortir de la ville de Ninive sans bâton, sans rien. Alors les gens sont interloqués et tout d'un coup revenir, il va chercher sa belle-fille, Sarah, et revenir tout joyeux, sautillant, chantant, dansant pour revenir à la maison. Et ce qui était pour lui une honte devient pour lui une gloire.
Alors, peut-être pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, quelle est la principale leçon du livre de Toby, le message qu'on y trouve, et en quoi ce message du livre de Toby est très actuel ?
Le livre de Toby, c'est le livre, comme on a dit au tout début, c'est « Mais où est Dieu dans ce temps d'épreuve ? Pourquoi arrive-t-il tant d'épreuves à Toby ?» Donc la première leçon, c'est que Dieu est là. Et que Dieu conduit bien les événements. Et que cette histoire du poisson, malgré les difficultés, malgré les épreuves, en fait, les épreuves permettent de grandir dans la fidélité avec Dieu. Deuxième enseignement, et là on le voit avec le père de Toby, c'est la manière de pratiquer la loi. Pour Toby, au début, il veut vivre d'une manière très stricte la loi juive, et on sait qu'elle peut être très stricte. Et là, il apprend, à travers toutes ces épreuves, que l'important est en réalité l'amour. Ça se passe à travers l'amour conjugal entre son fils et Sarah. Et ça se passe entre cette joie qu'apporte l'amour. Donc la pratique de la loi est bien, mais se rappeler que ce qui est important aussi, c'est cette vie qui vient de Dieu. Et cette vie nous conduit à la joie.
Et on peut voir ça dans une optique évidemment uniquement chrétienne, mais je pense que ça peut parler aussi à un non-croyant qui sera en quête de sens, et c'est en cela que c'est très actuel.
Alors, ce livre en fait se passe à Ninive, donc nous ne sommes pas en Israël. Alors, il est adressé principalement aux Juifs de la diaspora, mais on s'aperçoit que c'est un livre très léger. En fait, la foi est présente, certes, mais chacun peut se reconnaître à travers ses épreuves de la vie. La vie de Toby, père à Ninive, comme la vie de Toby, fils qui va se marier, etc., ce sont des situations humaines qui se présentent. Et comment Dieu est présent à travers ces situations humaines. Donc, tout homme peut se retrouver là. Le livre a été écrit au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas un livre chrétien. Et pourtant, il y a un message très chrétien dedans. C'est déjà cette primauté de l'amour qui est annoncée.
Eh bien, ce sera la conclusion, la belle conclusion de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé, frère François Le Héraguet. Je rappelle que vous prononcez cette conférence consacrée au livre de Toby, jeudi 16 avril à 20h30 à la salle du chapitre au couvent des Dominicains de Toulouse. Vous prononcez également celle consacrée au livre d'Esther, le jeudi 7 mai à 20h30, au même endroit, à la salle du chapitre également. Ceux qui nous écoutent peuvent se renseigner sur le site www.toulouse.dominicain.fr. Ce numéro était animé par Éric Dupré, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous de votre fidélité à Vivante Église. À bientôt.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.